Merci à tous d'être présents pour cet entretien avec Sarah Dock. Un petit entretien d'une heure pour une grande dame de la science-fiction francophone. J'insiste bien sur le terme francophone. Et Sarah a été à la fois, elle est toujours plus ou moins journaliste, traductrice, auteure, présidente du prix Julia Verlanger. Qu'est-ce que j'ai encore oublié ?
Que j'ai organisé 2 conventions, 4 festivals et un certain nombre d'autres événements autour de la science-fiction.
Ma première question concernant la science-fiction et plus généralement l'imaginaire en tant que tel, comment tu as mis ton premier pied dans la littérature de l'imaginaire ou...
Mes deux parents lisaient de la science-fiction, vraiment, beaucoup. Et le meilleur ami de ma mère s'appelait Jacques Sternberg. Il venait régulièrement à la maison et il emmenait avec lui de temps en temps Monsieur Gérard Klein. C'est ainsi que, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à lire de la science-fiction dans la collection L'âge des étoiles qu'il avait lancée à cette époque-là pour publier des livres jeunesse de science-fiction, ce qui ne se faisait absolument pas à l'époque. Et donc, j'ai lu mon premier Heinlein. Et à 18 ans, je les avais tous lus.
D'accord.
Et donc, j'ai sauté sur les genoux de Gérard Klein.
Gérard Klein, pour ceux qui ne le savent pas, qui est un illustre éditeur, auteur, qui vient de recevoir de surcroît cette année le grand prix exceptionnel des Utopiales, extraordinaire des Utopiales.
Et qui fait partie des quelques éditeurs, ils étaient 3 ou 4, qui dans les années 50 ont décidé d'importer la science-fiction en France.
Mais outre Heinlein, est-ce que tu avais d'autres auteurs de référence quand tu étais jeune ?
Enfant, il y avait les Hourier, parce que toujours dans la même collection. Il y a eu Asimov, il y a eu Van Vogt, il y a eu les grands classiques, en fait. Je n'ai découvert la science-fiction plus récente que beaucoup plus tard. Et la science-fiction française encore plus tard.
Et l'écriture, quand est-ce que tu as eu le goût pour l'écriture ?
D'après ma mère, elle a su que j'allais écrire à partir du moment où j'ai su parler. Parce que dès que j'ai su parler, j'ai commencé à inventer des histoires et à raconter des histoires. Et dès que j'ai su lire, je lisais au moins un roman par jour et j'inventais des histoires à l'intérieur de ces univers-là. Donc quelque part, l'écriture a toujours été dans ma vie et Jacques Sternberg m'a toujours encouragé depuis mon enfance à aller dans ce sens.
Et tes premiers souvenirs d'écriture en tant que tel ?
Mon premier souvenir d'écriture, c'est surtout ces fins de l'enfance, début de l'adolescence, des tentatives, et c'était déjà de la SF d'ailleurs, c'était des aventures de pirates de l'espace, avec un peu Albator quelque part, mais avec des filles.
À partir de quel moment tu t'es dit, je vais écrire de manière un peu plus sérieuse pour être lu?
Je ne me suis pas dit que j'allais écrire de manière un peu plus sérieuse, mais j'ai toujours rêvé d'écrire. J'ai toujours eu envie d'écrire des histoires, de devenir écrivain. J'ai pas énormément de confiance en moi, donc ça a mis beaucoup de temps à m'y mettre. J'écrivais des petits textes, je participais à des petits concours d'écriture dans des magazines, des choses comme ça, mais rien de bien sérieux.
Et comment t'en es arrivé à ce qu'on va appeler le fandom Comment t'en es arrivé à mettre un pied dans le fandom ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que après mes études, j'ai eu un boulot très chiant qui me permettait de gagner ma vie, mais qui ne correspondait absolument pas à ce qui m'intéressait.
Qui était ?
Je travaillais comme assistante de direction dans la coopération au développement. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut que je nourrisse d'autres parties de moi pour que ça se passe bien. J'ai donc créé une émission de radio sur la science-fiction, sur la radio de l'université. Et j'ai contacté des journalistes, une revue belge de science-fiction qui s'appelait Phoenix, pour en fait qu'ils participent à mon émission. Ça ne les intéressait pas. Par contre, ils cherchaient à la fois des chroniqueurs, des journalistes et des traducteurs. Et j'ai commencé à écrire des chroniques, à écrire de longs articles, presque des essais, à écrire des dossiers sur des auteurs. J'ai découvert la science-fiction française à ce moment-là que je ne connaissais absolument pas, parce que Le Fleuve Noir, par exemple, n'était pas du tout dans la culture de mes parents. Et un jour, nous sommes partis en bande à Nancy pour les Galaxiales. Et là, j'ai découvert qu'il existait des conventions, qu'il existait des festivals, qu'on pouvait rencontrer les auteurs, qu'on pouvait rencontrer d'autres fans de SF qui ne soient pas le condisciple avec lequel on s'amuse à parler de bouquins, mais des vrais professionnels. J'ai commencé à faire des interviews, j'ai commencé à parler avec les gens. Et très vite après, j'ai organisé mon premier festival de science-fiction, après ma première convention.
On était en quelle année ?
Et là, on est en 99. J'avais déjà... En 97, j'ai mis mon premier pied dans le fandom. Et en 99, j'organise un festival à Bruxelles. Et là, je me retrouve avec énormément d'auteurs, beaucoup d'auteurs français essentiellement, et dans une situation où il y a des choses qui ne sont pas prévues. Par exemple, on fait manger les auteurs, mais il n'y a rien pour qu'ils aillent boire un pot après. Il n'y a pas de soirée prévue. Donc, on va au night shop, donc le magasin de nuit à Bruxelles, il y en a partout. On va acheter des bières et je ramène tout le monde à la maison. Je commence à discuter avec les gens, etc., etc. Je rencontre Roland Wagner. Et Roland Wagner a décidé d'être mon grand frère. Et à partir de ce moment-là, en quelque sorte, il m'a pris par la main. Il m'a conseillé des festivals et il m'a présenté les gens. Il a été même une fois pour les Galaxiales suivantes jusqu'à téléphoner à Michel Pagel pour lui dire « Voilà Michel, il y a mon amie Sarah qui va venir, elle ne connaît pas encore bien les gens, est-ce que tu veux bien t'en occuper, l'emmener boire un verre et tout et tout ?» Et c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à rencontrer tout le monde et à me faire ma petite place parce que j'avais la culture qu'il fallait pour discuter avec ces gens-là.
Durant cette période, quels sont les meilleurs souvenirs que tu gardes en tant que découvreuse d'un univers que tu méconnaissais ?
Oh, il y en a énormément. C'est les premières rencontres, c'est la fois où en 2001, on organise les 40 ans de Michel Pagel aux Utopiales avec toutes les filles de la SF de l'époque qui se sont toutes costumées en pin-up, parce que Michel adore les pin-up, et on a fait une grosse fête dans une petite salle de la cité avec tout le monde. C'est ces fameuses Galaxiales 97 où je vois Heyerdahl de loin. Je demande à mon rédacteur en chef s'il peut me le présenter. Comme Heyerdahl détestait mon rédacteur en chef, celui-ci m'a dit « Fais-le toi-même ». Et donc j'étais « Bonjour, vous êtes Heyerdahl ? Je m'appelle Sarah Doak, j'ai déjà écrit des chroniques de vos livres. J'aimerais beaucoup vous interviewer. » Il y a plein de moments comme ça où j'ai rencontré les gens, où on a organisé des choses, parce que après ce fameux anniversaire de Michel Pagel, on avait fait une grosse cagnotte pour avoir à boire et tout, il nous est resté de l'argent. Alors on a fondé un petit comité pour financer la présence dans les festivals des plus fauchés d'entre nous. Pouvoir payer des tickets boissons, des tickets repas à des fans qui venaient pour la première fois, pour la deuxième fois, qui n'avaient pas les moyens de rencontrer vraiment les auteurs. Et on a commencé petit à petit à organiser ce genre de trucs. Autre grand souvenir, ça, on a commencé en 2000, ce sont les striptease masculins que nous organisions entre femmes dans une chambre du Novotel. Et où le premier ayant été Olivier Paquet, qui avait fait ce pari stupide. Si j'ai le GPI pour ma nouvelle, je fais un striptease. il a fait son striptease. Et pendant plusieurs années, à chaque fois, à chaque année, nous avions notre petite réunion féminine avec un auteur, un illustrateur, un traducteur qui venait nous faire un spectacle burlesque. Et il y a eu des moments très, très forts.
Pour en revenir à l'écriture, à partir de quel... Ton premier texte a été publié quand et comment ?
Mon premier texte a été publié en 2000 dans une anthologie qui s'appelait Cosmic Erotica, qui réunissait 17 auteurs femmes du monde entier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé à écrire une nouvelle de cyberpunk. Et ayant rencontré Jean-Marc Ligny, je lui envoie un mail en lui demandant « Est-ce que tu accepterais de lire mon texte et de me dire ce que tu en penses ?» Sa réponse a été « Mais j'ai absolument pas le temps. Par contre, si tu as dans tes cartons un texte sur qui soit une histoire d'amour ou une histoire de texte, de sexe, je cherche des textes et ce serait bien d'avoir de nouveaux auteurs. » Donc j'ai écrit à toute vitesse « Miroir de mon âme » qui a été publié dans cette anthologie extrêmement prestigieuse chez J'ai lu Millénaire aux côtés de Joël Vintrebert, de Pat Cadigan, de Tanit Lee, de très 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 grandes dames de la science-fiction. Et ce texte a été, je m'en suis rendu compte des années plus tard, a été extrêmement remarqué parce que c'était le seul et unique texte de toute l'anthologie qui parlait d'amour.
Pour une nouvelle qui... pour un recueil qui devait plus ou moins en sous-texte en parler.
La plupart des auteurs femmes qui y ont participé ont préféré parler de sexe parce que, et c'est toujours le cas aujourd'hui, quand un homme écrit une histoire d'amour, on va encenser sa sensibilité. Quand une femme écrit une histoire d'amour, on va dire que c'est fleur bleue, on va dire que c'est de la romance, on va beaucoup plus critiquer. Et donc, l'essentiel de ces femmes a eu peur. Et elles ont préféré écrire des histoires très crues, parfois très violentes, très cruelles, que oser parler d'amour.
Tu as donc commencé par une nouvelle. Tu es connue pour être une nouvelliste. Comment tu travailles ce format et pourquoi tu as choisi ce format ?
J'ai choisi ce format par fatalité, en quelque sorte. J'ai une formation de journaliste. J'ai une formation à la concision. Jean-Claude Duniac dirait que j'utilise pour une nouvelle le matériel que d'autres utiliseraient pour un roman. Le long me fait un petit peu peur. Le long cours, c'est pas moi au départ parce que je suis formée à la concision, parce que j'ai besoin que ça foisonne et que pour écrire un roman, il me faut énormément d'informations, énormément d'idées, énormément d'imagination pour y arriver. Et puis, c'est un format que j'aime bien, qui permet de jouer avec les styles, qui permet d'écrire toutes sortes de choses de manière différente. Et à cette époque-là, il y avait énormément de support pour les nouvelles. Il y avait des revues, il y avait des anthologies, il y avait des recueils. Les éditeurs étaient friands de nouvelles. Et donc, il était vraiment possible d'en publier, ce qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui.
Et combien de temps te prend l'écriture d'une nouvelle ?
L'écriture ou la nouvelle ?
La nouvelle en tant que telle.
La nouvelle en tant que telle, parfois, peut prendre très, très, très longtemps parce que je suis incapable de faire un plan. Ça m'ennuie profondément. Et donc, tout se passe dans ma tête. Et puis, un jour, je trouve la forme et je trouve la première phrase. À partir du moment où j'ai la première phrase, la nouvelle peut être écrite en 3 jours, en 1 semaine ou 2, rarement plus.
On te connaît sous un autre versant dont certains ont pu apercevoir des bribes concernant la traduction. Comment tu as passé le pas de la traduction, en fait ? Est-ce que c'était quelque chose d'évident pour toi ou c'est venu aussi sur une bonne rencontre ?
Je suis bilingue. Je suis à moitié américaine par mon père, qui ne m'a pas parlé anglais pendant mon enfance, qui a attendu que je sois capable de lui répondre et que nous soyons capables d'avoir des conversations ensemble, parce qu'il voulait que je maîtrise la structure de la langue et que je ne me retrouve pas comme beaucoup d'enfants de couples mixtes qui parlent deux langues mais qui n'en maîtrisent pas totalement l'une des deux. Et puis, on m'a demandé des traductions, donc pour des toutes petites maisons d'édition, surtout en Belgique. J'ai traduit des nouvelles, et puis Stéphanie Nico, qui s'appelait encore Stéphane, était rédacteur en chef de Galaxy, m'a demandé une première traduction sous l'égide de Jean-Daniel Breck. Et ça s'est extrêmement bien passé, j'en ai fait quelques autres. Et puis j'ai fait une grosse bêtise. J'ai écrit un article dans toujours cette revue Phoenix, dénonçant les pratiques de certaines maisons d'édition des années 80 et 90 qui avaient tendance à couper dans le texte, à couper les introspections, à couper les descriptions, parce que ils étaient persuadés que le lecteur français ne lirait pas un gros livre, que plus de 200, 250 pages maximum, c'était impossible à vendre. Et donc j'ai expliqué ça en citant non pas les éditeurs, mais un ou deux exemples de romans. Et j'ai été punie. D'abord, on m'a menacé de me faire un procès, ce qui m'a fait beaucoup rire puisque j'avais toutes les preuves. Et puis, pendant des années, impossible de trouver du boulot, impossible de traduire parce que, ah non, non, celle-là, c'est une emmerdeuse, celle-là, elle dit des choses qu'il ne faut pas, on ne veut pas travailler avec elle. Et Jean-Claude Duniac, qui a été engagé en 2007 par Bragelonne pour diriger une collection de SF, m'a présenté à Isabelle Varange, qui cherchait des traducteurs. Et donc, j'ai commencé à traduire pour Bragelonne pendant quelques années. Et plus tard, en 2012, à un moment donné où je me demandais comment j'allais faire puisque je n'avais plus de traduction, Marion Mazorik m'a proposé de traduire Paolo Bacigalupi parce que j'avais été une des personnes à lui en parler. Et depuis, je n'arrête plus.
Et comment ça se passe pour toi, le travail de traducteur ?
Ça dépend parce que le travail de traducteur, c'est de se mettre dans la tête de l'autre. C'est de comprendre comment il pense, ce qu'il veut dire plus que ce qu'il dit, pourquoi, comment, quelle est son intention, quelle est la musique de son texte. Et après, c'est faire les recherches et c'est trouver le moyen d'adapter une musique anglo-saxonne à une musique francophone. C'est comme être flûtiste et adapter la partition d'un violoniste.
Et ça te prend combien de temps, en fait, généralement ?
Ça dépend des auteurs, en fait. Il y a des auteurs pour lesquels ça va me prendre 3 mois sans problème, et je peux dire aujourd'hui que je parle le Bacigalupi couramment, et donc ça coule tout seul. D'autres auteurs, comme James Morrow, par exemple, qui fait énormément de citations, qui a un langage beaucoup plus fouillé, beaucoup plus recherché, me demande beaucoup plus de temps. Ça peut prendre 4, 5, 6 mois parfois, parce qu'il y a un énorme travail en amont pour trouver exactement, et puis aussi pour se mettre dans la voie de l'auteur. Quand on travaille avec un nouvel auteur, ça prend toujours beaucoup plus de temps, parce qu'il faut apprendre cette musique-là aussi. Il faut apprendre une nouvelle musique, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle langue.
Et ton plus beau souvenir de traduction, et pourquoi ?
Mon plus beau souvenir de traduction, c'est ma première traduction professionnelle pour Galaxy. C'est un texte qui s'appelle La Gang, en français, de Nello Hopkinson, qui est une pure merveille, un texte érotique, où tout tournait autour du sucre, et où j'ai dû faire passer le sel du sexe en français. Ça a été difficile, mais ça a été un immense bonheur de déchiffrer. Il y a un côté décodage aussi. Il y a un côté comprendre l'autre et comprendre pourquoi il a choisi tel mot et pas un autre. Et Nello Hopkinson est un auteur qui choisit vraiment chaque mot pour une raison très, très précise. Des mots qui sont très simples parfois, mais d'autres qui ont une polysémie telle que pour en trouver une correspondance en français, on s'arrache les cheveux.
On va revenir à ton travail d'écriture, puisque vient de paraître
en janvier,
Techno Faerie. C'est ton premier ouvrage monographique en tant que tel. Est-ce que tu peux revenir sur l'origine de Techno Faerie et surtout le pourquoi ?
Il y a quelques textes de Technoférie que j'avais écrits, deux, trois, que j'avais écrits depuis longtemps et que je n'avais jamais proposés. Et puis André-François Ruau, qui est un vieil ami, est venu à la maison après un festival Troll et Légendes et on a discuté. Et sa réaction, ça a été « Comment ça ? Tu as des textes inédits ? Mais je veux être ton éditeur. » Et on a commencé à parler, je lui ai parlé de cet univers féerique, je lui ai surtout parlé de toutes les fées que j'avais créées, des fées technologiques, des fées de science-fiction. Et c'est lui qui a dit « On va faire un livre. » On va faire un livre, on va en faire un ouvrage de naturaliste et tu vas écrire les textes et on va mettre les fiches avec.
Est-ce que ça t'a demandé, de fait, le texte complet est un fix-up, oui, qui mélange les différents textes pour donner une harmonie. Certains textes, est-ce que tu as dû reprendre certains textes? Est-ce que tu as redécouvert quelque chose en les relisant?
Oui, tout à fait. J'ai le premier texte, l'introduction au monde de Ferry, était beaucoup plus long et beaucoup plus complexe à l'origine et je l'ai transformé et pris l'autre partie pour une autre nouvelle qui n'est pas dans ce livre-là. Et j'ai adapté par rapport à toutes les fées que j'avais créées depuis. De même que le texte le plus ancien de Technoféry, c'est Lettre d'absence, dont la première version date de 91. Je l'ai écrit en cours de psychologie à l'université. Et là, je l'ai repris pour publication dans Fiction. Et je l'ai adapté à ce monde féerique que j'étais en train de créer.
On va montrer peut-être l'ouvrage. L'ouvrage, en plus, possède une maquette très particulière avec un index féerique juste à la fin.
Tout à fait.
Je vais juste poser le micro pour pouvoir montrer. On assiste vraiment à un glossaire imaginé, pensé.
Tout à fait. Mais c'est les fiches des fées, c'est un travail que j'ai fait, comme je fais toujours quand je crée un monde. Quand j'arrive pas à écrire, quand j'ai pas vraiment une idée pour une histoire, je crée des mondes, je crée des personnages. Et là, je me suis amusée à créer mes fées.
Comme dans un jeu de rôle, en fait.
Tout à fait. Comme dans un jeu de rôle, j'avais besoin de jouer, d'inventer des choses. J'ai inventé des fées. Et puis, on s'est dit avec André que ce serait bien qu'il y ait des illustrations. Mais en même temps, les moutons électriques n'ont pas les moyens de payer des illustrateurs. Mais comme il se trouve que je fais partie de ce milieu depuis quand même pas mal de temps, je connais bien, j'ai pour amis un certain nombre d'illustrateurs auxquels j'ai parlé du projet et qui s'en sont emparés et qui ont eu l'immense générosité de m'offrir des illustrations comme preuve de confiance et d'encouragement dans mon travail.
Et chacun a choisi une illustre, oui, sa fiche ou
tout
c'est
à fait.
Toi
Non. J'ai envoyé à chacun le glossaire, les différentes fées. Et chacun a choisi celle qui lui parlait le plus. D'autres m'ont demandé de choisir pour eux.
Est-ce
Il y a eu
peux...
différents. D'autres, je n'ai pas eu à leur demander quoi que ce soit. Ce sont eux qui sont venus me voir en disant « J'ai entendu parler de ton projet. J'ai vraiment très envie de participer. » Est-ce que tu veux bien que je dessine pour toi ?
Et parmi, sans dénigrer le travail de tout le monde, quel illustrateur t'a le plus touché dans cette relation de navette ?
Je ne peux pas répondre à cette question. Ce n'est pas parce que je ne veux pas y répondre. C'est que je ne fonctionne absolument pas dans la préférence. Je ne pourrais pas dire quel est mon roman préféré, je ne pourrais pas dire quel est mon film préféré, je ne pourrais pas dire quel est le plus grand auteur du monde ou quel est le plus grand artiste du monde, parce que ça n'est pas moi. Je ne travaille pas, je ne réfléchis pas comme ça.
Et sur Technoféerie, tu as...
Attends. Non, il y en a un. Il y en a un, et ce n'est pas parce que je préfère l'illustration. C'est parce que c'était une surprise. David Calvo, qui est surtout écrivain et concepteur de jeux, avait voulu participer, mais il n'a pas eu le temps. Donc j'étais persuadée qu'il n'y aurait pas. Et en recevant l'ouvrage, j'ai découvert que David avait fait des dessins qui sont à la toute fin pour moi, qu'il avait pris le temps de le faire Et ça m'a énormément touchée.
On peut dire, par exemple, en montrant le dessin, on peut dire aussi que David Calvo tient un blog qui s'appelle Song of Bella, dont vous reconnaîtrez, pour les, ceux qui connaissent, le graphisme.
Tout à fait.
Et du coup, en termes de style, le style Saradoc est quand même assez particulier. Est-ce que tu fais attention à ton style? Comment tu travailles ton style sur l'harmonie? Est-ce que tu avais voulu ces progressions dans le style, ces petits jeux que, pour le lecteur?
Mon style, je ne le travaille pas. Ou alors après. Mais c'est, ça part au fil de la plume, essentiellement. Mais à partir du moment où j'avais une dizaine d'illustrateurs qui travaillaient avec moi, j'ai eu envie de jouer sur ce mélange et donc d'avoir des styles différents dans le texte. Que ce ne soit pas quelque chose de linéaire, que ce ne soit pas toujours la même écriture, que ce ne soit pas toujours la même forme, pour en faire vraiment un tout et pour ajouter à ce côté naturaliste qui plaisait beaucoup à André.
Est-ce que, du coup, tu as quand même un livre univers avec différentes facettes? Est-ce que tu as envie de continuer cet univers?
Peut-être pas tout de suite. Mais oui, de temps en temps, j'ai envie d'écrire une histoire sur l'une des fées, sur l'un des personnages. Parce que bon, dans les textes qui ne sont pas inédits, il y a un texte qui était inédit en français. Mais qui, par contre, Réunion de tribus, n'existait à cette époque-là qu'en allemand et en russe. Parce que c'est Andreas Eschbach qui m'avait demandé un texte pour une anthologie qui s'appelait Un Trillion Euro, et, parce qu'il cherchait des auteurs de différents pays européens. Et donc il a été publié en allemand et puis ensuite il a été vendu en Russie.
Et tu as écrit en français puis...
J'ai écrit en français et ça a été traduit en Allemagne.
Et qu'est-ce que ça fait de se dire qu'on est publié en russe ou en allemand? Est-ce que ça...
Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai un livre. J'ai écrit essentiellement des nouvelles, mais je suis traduit en cinq langues. En italien, en russe, en allemand, en néerlandais, belge et en anglais. Ce qui est assez rare.
Ce qui est assez rare. Mais concernant l'écriture, tu disais que tu n'aimais pas la forme romanesque, mais pour autant, est-ce que tu n'as pas des projets d'écriture un jour de te mettre au roman?
Ah, même très 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 bientôt. André-François Ruault m'a demandé d'écrire un, voire plusieurs romans de fantasy urbaine bruxelloise, de jouer avec ma ville, avec son folklore, ses croyances... son propre petit peuple, pour écrire une fantaisie urbaine contemporaine.
Et comment tu... Du coup, tu réfléchis, tu fais beaucoup de recherches, et tu envisages ça différemment de l'écriture des nouvelles, mais est-ce que tu as mis certains processus différents en route?
Le processus est toujours le même, ça se passe dans ma tête. Mais là, c'est très parti. J'avais des idées, j'ai créé certains personnages déjà. Je savais sur quoi je voulais travailler, c'est-à-dire sur ce folklore, sur ces personnages, etc. J'avais un personnage principal. Et puis, j'ai eu une idée qui a été tout de suite acceptée. À Bruxelles, il existe un endroit magique, mais totalement magique, qui s'appelle le Surnatéum, le musée d'histoire surnaturelle, qui est là, en quelque sorte, la collection privée d'un magicien qui collectionne les objets magiques. Et j'ai été le voir, on en a discuté, c'est quelqu'un qui aime beaucoup ce que j'écris. Et donc je vais travailler aussi à partir de ces objets magiques, de leur histoire et de tout ce qui les entoure.
Et dans les personnages folkloriques bruxellois, est-ce que tu peux nous donner quelques pistes ou
Tout à fait, parce que j'ai déjà écrit une nouvelle de ce style pour une anthologie qui s'appelle Bruxelles Noire, oui, sur Bruxelles, et qui vient de paraître en août aux États-Unis. Et par exemple, j'ai mis les trois personnages tutélaires, trois esprits frappeurs, esprits farceurs belges, Till Eulenspiegel, Till l'espiègle qu'on connaît aussi en France, Tchanché, qui est un personnage issu du milieu ouvrier wallon et du théâtre de marionnettes, qui est quelque chose de très important et qui existe depuis le 14e siècle en Wallonie. Et on a des textes de spectacles qui datent de cette époque-là. Et Pitches Cramouille, qui est un personnage de farceur bruxellois. Mais aussi, on peut parler du Mannequin Peace, on peut parler de Madame Chapeau, on peut parler du Peter Pan qui se dresse dans le jardin du Palais d'Egmont, on peut parler d'énormément de petites formes, de petits personnages emblématiques de la ville.
On va passer sur un côté un peu plus représentatif, loin de l'écriture, tu es présidente du prix Julia Vergonger. Ma question est à la fois double. C'est quoi le prix Julia Vergonger pour ceux qui ne connaissent pas? Mais surtout, comment tu t'es retrouvée membre de ce jury?
Alors, le prix Julia Vergonger a été créé en 1986 par Jean-Pierre Taïeb, le veuf de Julia Vergonger, qui était tellement fier de sa femme qu'il a décidé de léguer toute sa fortune et les droits d'auteur de sa femme pour créer une fondation Julia Vergonger sous l'égide de la Fondation de France, pour primer chaque année un roman d'aventure populaire, de science-fiction, de fantasy ou de fantastique. À sa mort, en 92, ce n'est donc plus lui qui remettait le prix, on a nommé une succession de présidents du jury. La première étant, je viens d'oublier son nom, Annick Béguin, qui était libraire. Et ensuite, ce fut Roland Wagner. Et c'est Roland Wagner qui, en 2000-2001, m'a proposé de m'introduire dans le jury avec Cathy Martin, qui est là, parce que je ne sais plus quelle personne avait donné sa démission au moment où Roland devenait président. Et quand Roland a décidé de quitter le jury, on a demandé qui est-ce qu'il voulait. J'ai posé ma candidature et ils ont tous été très gentils, ils ont dit oui.
Et comment ça se passe? Comment on vit le fait d'être dans un jury littéraire? Est-ce qu'on retrouve des réflexes de chroniqueur?
Bien entendu, nous sommes tous de grands lecteurs, nous sommes tous des gens pour qui la science-fiction est quelque chose d'extrêmement important. Et donc nous lisons, et nous lisons avec cet œil-là, cet œil un peu critique, de se demander est-ce que ce livre-là correspond à ce que nous cherchons ou pas? Est-ce que, on a un coup de cœur, mais c'est pas exactement ça. Est-ce qu'on va le mettre dans les sélectionnés ou pas? Il arrive qu'on sélectionne un premier roman pour encourager un auteur, alors qu'il n'aurait pas été normalement sélectionné, mais parce qu'il est prometteur.
Et est-ce que l'ombre ou l'esprit de l'écriture de Julia Vergonger est toujours présente dans la question des choix?
Pas toujours. Parfois, on triche. Parfois, on triche parce qu'on tombe sur un texte qu'on aime tellement que même s'il n'est pas exactement dans la ligne du parti, on le prend quand même.
Il arrive, pour anecdote, il est vrai qu'il arrive que le prix Julia Vergonger soit remis à un pseudonyme de Julia Vergonger. C'est en cas de défaillance ou de non...
Non.
Non ?
Non.
Je confonds avec... C'est pas grave. Mais non. On va en revenir sur le meilleur souvenir que tu as eu en tant que jury ou en tant que présidente.
Meilleur souvenir, peut-être pas, mais l'un des plus drôles. À une certaine époque, le prix était remis à la mairie du 18e à Paris. Et l'année précédente, aux Utopiales de Poitiers, quand c'était encore à Poitiers, nous avions eu droit à toutes les Miss Météo et les Miss les potiches sur scène pendant la remise du prix Utopial, etc., etc. Ce qui nous avait fait beaucoup rire. Donc, on s'est dit avec Roland, on va remettre le prix tous les deux. J'étais la secrétaire du jury à cette époque-là. Et je dis, OK, je fais la potiche. Et j'arrive avec le costume de potiche. Et Roland n'est pas là. Et Roland n'arrive toujours pas. Et Roland n'arrive tellement pas que je dois moi-même remettre le prix toute seule. Donc je remonte un petit peu ma jupe qui dévoilait mon ventre. J'essaye de faire un petit peu moins potiche et j'ai remis le prix. Et Roland est arrivé comme une fleur, trois quarts d'heure après la fin, pendant le cocktail qui suivait. Je t'ai bien eu, hein ?
C'était quoi sa raison ?
Non, il avait fait exprès. Il n'avait pas envie, il voulait me faire la surprise, il voulait me coincer. Donc sa réponse a été, sa réaction a été, je t'ai bien eu, hein ?
Et... Ça y est, je veux. Et on va peut-être parler aussi de militantisme. Tu es quelqu'un de très militant, très féministe.
Très féministe, mais aussi depuis 2000, j'ai fait partie des fondateurs du droit du cerf. J'ai bien plus tard, quand on a décidé, face à un certain nombre de nouvelles lois sur le droit d'auteur en France, de ressusciter le syndicat des écrivains de langue française, j'en suis devenue la coprésidente. Je suis toujours présidente d'honneur. Et pour l'instant, là c'est pour le droit du cerf, nous attendons la décision du tribunal de la Cour de justice européenne au Luxembourg pour savoir si, oui ou non, la loi sur la numérisation des livres indisponibles du XXe siècle est acceptable au niveau européen ou pas. Il se trouve que normalement, la Cour de justice suit les conclusions de son avocat général. Un avocat général qui est un homme politique belge, Melchior Watley. C'est la première fois de ma vie que je peux me dire que je suis contente de quelque chose que cet homme a fait. Et en même temps, pour moi, c'est tout à fait compréhensible parce que je suis belge. Et que la question du droit d'auteur et du droit des auteurs est quelque chose qui a été longuement réfléchi en Belgique. Parce qu'on a créé, il a été créé quelque chose qui ressemble à l'intermittence en France. Mais ça concerne les artistes performatifs. Par contre, pour les artistes qui produisent du droit d'auteur, donc les créateurs, ça n'est pas possible. Puisque le droit d'auteur est inaliénable, puisque un certain nombre de droits restent éternellement propriété de leur auteur, on ne peut pas faire un contrat de travail traditionnel. On ne peut pas donner un statut de ce style-là à un auteur. Et c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la réflexion belge sur le droit d'auteur. Et donc, cette inaliénabilité est quelque chose qui, pour un homme politique belge, est tout à fait normal. Et c'est donc pour ça qu'il a repris nos arguments pour nous défendre devant la Cour.
Et comment t'en es arrivé à militer dans le milieu de l'édition, enfin, ou plus généralement militer?
Ça, c'était juste familial. J'ai passé une bonne partie de mon enfance, de mon adolescence, dans des manifs, que ce soit sur les épaules de mon père ou toute seule, dans les manifs étudiantes en 86, dans les manifs pour l'avortement dans les années 70. J'ai fait énormément de choses comme ça. J'ai toujours fait ça, en fait. Et en 86, j'étais la personne au lycée qui savait comment on faisait une banderole et qu'il fallait faire des trous dedans, par exemple. Et en 2000, quand Heyerdahl a créé le droit du cerf pour lutter contre le prépayant en bibliothèque et créer un nouveau contrat d'auteur, un contrat d'édition qui soit plus favorable aux auteurs, il était évident pour moi que je devais participer.
Et après, si jamais la Cour européenne accepte, est-ce qu'il reste des chevaux de bataille pour le droit du cerf ?
Il y en a toujours.
Est-ce que tu peux en citer quelques-unes ?
Le montant des droits, du pourcentage de droits sur la vente des livres des auteurs jeunesse, par exemple, qui est ridiculement bas. La rémunération des auteurs dans certaines manifestations, lutter contre les contrats, entre autres pour le numérique, qui voudraient s'étendre sur toute la durée de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Ce qui veut dire que l'éditeur profitera pour toujours d'une œuvre, alors que pourquoi 70 ans ? Alors que la durée de vie d'un livre, et c'est pour ça qu'on parle de livres indisponibles, est beaucoup plus courte.
Et quelle vision, avec toute ta carrière, toutes tes différentes casquettes, quelle vision tu as du monde littéraire français à l'heure actuelle ?
Il est malheureusement en très mauvais état. Il est en très mauvais état, mais surtout parce que il y a des tas de questions financières qui se sont immiscées dans le milieu éditorial. À une époque, la science-fiction se vendait tout à fait bien. Et puis, des financiers qui reprenaient des maisons d'édition ont décidé que une collection devait vous fournir tant de pourcentage de réussite. Et là, c'était une collection. Et puis, ça a été, chaque livre devait atteindre un certain nombre de ventes pour être viable. Et donc, des auteurs ont cessé d'être publiés parce qu'ils ne vendaient pas assez. Ils vendaient autant qu'avant, mais ça ne correspondait plus à ce que ces financiers-là considéraient comme viable financièrement.
Mais est-ce qu'il ne reste pas un peu d'optimisme quand même à avoir par rapport à ce qui se fait, ce qui est produit ?
Pour moi, l'optimisme, il est beaucoup plus chez les petits éditeurs, les éditeurs indépendants. Les gros éditeurs, c'est fini. Ils font beaucoup trop attention à l'argent et à leur propre gain et au gain de leurs actionnaires pour faire le travail d'une manière qui soit profitable aux auteurs et aux lecteurs.
Et là, ce serait plutôt à Sarah Doc, la lectrice, non pas jury. Quels auteurs, ces derniers temps, te passionnent
Paolo Bacigalupi, Catherine Dufour, Karim Berouka, qui quelque part a pris la relève de Roland Wagner dans le délire, la musique et la punkitude, Jeanne de Batz, Sylvie Lainé, qui reste une nouvelliste exceptionnelle, Jean-Claude Duniac pour la même raison. Mais il y en a tellement. Je l'ai déjà dit, j'ai du mal avec les préférences, j'ai du mal avec les top ceci, les top cela.
C'est juste des conseils, c'est pas un top.
Et toujours, 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 parce qu'il n'a pas pris une ride, le livre que je conseille toujours, Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes.
Avec ce personnage de Charlie.
Avec ce personnage de Charlie et avec le fait que l'histoire n'est pas racontée par une intrigue, mais par le texte lui-même et par la forme des phrases, par les mots, ce qui est un exercice extraordinaire et d'une émotion magnifique.
On va arriver sur les dernières questions. Il y a une question rituelle en entretien que j'ai beaucoup aimé poser pendant ce festival, puisque c'est le thème des machines. Quelle machine de SF voudrais-tu réelle et pourquoi ?
Pas le réplicateur utérin. Je crois qu'il y a très peu de lectrices de SF qui répondraient à autre chose. La possibilité Bon, moi, je veux pas d'enfant, j'en ai jamais voulu. Mais pour une femme, de ne pas devoir subir les dangers d'une grossesse, les dangers d'un accouchement, la douleur, etc. La possibilité de pouvoir regarder son bébé grandir, ça doit être quelque chose d'extraordinaire et c'est une libération.
Et à l'inverse, quelle machine de SF ne voudrait surtout pas voir naître ?
Robocop.
Pourquoi ?
Parce que mettre la justice entre les mains d'une machine qui n'a pas de conscience me fait très peur. Déjà, la fonction policière dérape très régulièrement, mais si on devait avoir une fonction policière qui soit toujours sur la lettre de la loi, sans jamais penser au facteur humain, ce serait terrible. La même chose pour les soldats augmentés, pour la guerre, etc.
On arrive à 5 minutes. Il nous reste 5 bonnes minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Soyez pas timide, on va pas vous...
Alors, je vais raconter une anecdote, parce que la personne avec qui je l'ai vécu est là. C'est un jour, un auteur qui était en train de préparer un roman m'a demandé « Quel texte conserverais-tu s'il fallait détruire tous les livres ?» Et au départ, j'ai eu beaucoup de mal. Au départ, c'était pas possible. Et puis, j'ai réfléchi et j'ai trouvé. Ce serait Fahrenheit 451, parce qu'il porterait l'histoire de tous les autres.
On va s'arrêter là.
Merci d'être venu.
Merci à tous.